Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est vendredi, c'est le club des idées du grain. La Russie a lancé hier des manœuvres militaires conjointes avec le Bélarus à proximité de la Lituanie et de la Pologne. Rien d'inhabituel en soi, l'armée russe organise chaque année des exercices de grande ampleur, si ce n'est que cette fois-ci, elles ont lieu à proximité des frontières de l'Union européenne. Difficile de ne pas y voir un message adressé à celle-ci et surtout à l'OTAN. Ne venez pas nous chercher des noises. En Corée du Nord, c'est la routine. Nouveau tir de missiles balistiques ce matin. Un rituel qui en appelle un autre, celui des réactions outragées. Citons par exemple, mais il y en a d'autres, celle de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, pour qui il s'agit d'une nouvelle provocation scandaleuse. Alors on pourrait multiplier les exemples dans l'actualité de ces zones de tension qui semblent témoigner d'une radicalisation des relations internationales. Radicalisation au sens d'une plus grande intransigeance, à laquelle serait concomitante avec la montée des nationalismes un peu partout dans le monde. Alors, relations internationales, faut-il remondialiser pour déradicaliser ? Alors, je sais, nous avons déjà trouvé des titres un peu plus simples, mais c'est la façon que nous avons trouvé pour nous inscrire dans cette grande journée consacrée aux radicalités sur France Culture. Et de toute manière, tout va devenir limpide au fil des minutes qui vont suivre, puisque nous sommes donc en compagnie des membres de notre club du vendredi avec deux grands retours. Grands retours, puisqu'on ne les avait pas plus entendus depuis les vacances d'été. Brice Couturier, bonsoir.
Bonsoir, Hervé.
Le tour du monde des idées, c'est toujours sur France Culture. Rappelez-nous les horaires et les jours.
11h53, ne pas manquer.
Du lundi au vendredi. Et on peut par ailleurs vous lire attentivement dans le journal Le Point, dans le monde.
De temps en temps.
De temps en temps. L'autre retour, c'est celui d'Anastasia Colosimo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez politologue l'an dernier, vous enseignez à Sciences Po. Est-ce que c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas.
Ce sera donc la façon dont je vous présenterai encore tout au long de cette saison. Lui, on l'a déjà entendu il y a 15 jours, c'est Sylvain Bourmeau. Bonsoir.
Bonsoir, Henri Gardez.
Professeur associé à l'EHESS. La suite dans les idées, petit changement cette année, répétons-le encore une fois. À partir de 12h45 désormais le samedi jusqu'à 13h30.
Ce qui veut dire qu'il y a juste le journal entre Politique, votre nouvelle émission Hervé, et la suite dans les idées.
Voilà, ça c'est de la confraternité, vous voyez. Peut-être que si les relations internationales se passaient comme entre Sylvain Bourmeau et moi, le monde serait plus apaisé. Il y a un quatrième membre ce soir de notre club, membre temporaire, c'est Jean-Christophe Ploquin, bonsoir.
Bonsoir Hervé Gardet.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef au journal La Croix. La Croix qui est notre partenaire pour cette journée spéciale consacrée aux radicalités. Alors je vous propose de faire un premier tour de table pour peut-être interroger le postulat sur lequel nous sommes partis, d'une radicalisation des relations internationales. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ce constat, Anastasia Colosimo ?
Disons que si on prend le temps long et si on prend le XXe siècle, on pourrait penser qu'à peu près à chaque période du XXe siècle, on a pu penser qu'il y avait une radicalisation des relations internationales. En revanche, ce qui est vrai par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est qu'effectivement, alors qu'on était quand même plutôt dans une idée de sortie des grandes tensions, à partir de la chute de l'URSS, on s'est dit qu'il y avait une ouverture, en tout cas à ce moment-là possible, vers un monde effectivement plus multipolaire et peut-être aussi plus conciliant et plus consensuel. Ce qu'on voit, c'est plutôt au contraire, effectivement, une montée des tensions. Et alors, j'ai réfléchi à ce titre que vous aviez donné à l'émission, qui était remondialiser...
Pour
déradicaliser. Et en fait, j'ai un peu... la réponse est un peu dans le titre. C'est-à-dire que l'un des gros problèmes de cette radicalisation, c'est exactement, en fait, la mondialisation. Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille remondialiser, mais plutôt peut-être démondialiser, puisque si on réfléchit à la radicalité qu'il y a aujourd'hui dans les relations internationales, elle est très fortement lié au fait qu'il y a eu au niveau global et un peu au centre, effectivement, une mondialisation qui a laissé aux marges des radicalités, qui a créé des radicalités aux marges. Et ces radicalités aux marges, en fait, correspondent aussi aux grands mouvements qu'on voit aujourd'hui dans les relations internationales, avec la scission de différents mondes, la scission de différentes visions, et surtout une guerre qui est aujourd'hui essentiellement une guerre de l'information entre différents mondes et le retour aussi d'une guerre idéologique très forte.
Donc une radicalisation qui serait davantage le produit de la mondialisation que de la démondialisation dont on parlait beaucoup il y a un an. Jean-Christophe Ploquin, toujours sur ce constat, ce premier niveau d'analyse.
Oui, il me semble qu'effectivement la mondialisation est un fait aujourd'hui qu'on peut difficilement enrayer et qu'à l'intérieur, mais en même temps, elle n'a pas empêché en quelque sorte l'émergence de grandes puissances. Et il me semble que l'un des faits aussi qui a fait qu'il y a finalement moins de freins par rapport à ces puissances émergentes, c'est le cas des États-Unis qui, durant la dernière, les derniers 20 ans, en quelque sorte, les derniers 20 ans, oui, ont été finalement été un peu la puissance régulatrice ou entendaient en quelque sorte jouer ce rôle et sont un petit peu sortis de ce rôle, notamment sous Barack Obama, avec un petit peu le concept de retenue stratégique, une volonté de s'engager beaucoup moins dans les affaires, militairement en tout cas, dans les affaires d'autres pays. On peut penser évidemment à la Syrie, on peut penser à la Libye, évidemment avec l'Iran, au contraire, le souhait d'apaiser la tension. Et par rapport à la Corée du Nord, donc ce concept de patience stratégique. Donc les États-Unis, qui se voulaient beaucoup moins finalement acteurs militaires globaux, et qui a permis finalement à d'autres puissances comme la Russie, comme la Turquie, finalement de trouver des logiques d'expansion.
Donc on pourrait dire une absence de régulation, en tout cas une moindre régulation, qui pourrait expliquer cette radicalisation des relations internationales. Je reste toujours sur ce terme, puisque je voudrais terminer le tour de table. Brice Couturier, votre analyse à vous ?
Écoutez-moi, ce que je crois, c'est qu'on vit la fin, en fait, d'une certaine mondialisation. La mondialisation, en tous les cas, celle qui a eu lieu depuis 1989, avait pour pivot les États-Unis. Et elle avait pour principe, elle avait pour moteur le commerce international et son développement, et elle avait pour principe le multilatéralisme et le droit international. C'est un ordre qui nous privilégiait, nous, beaucoup, les Européens, puisque nous sommes faibles militairement et faibles politiquement. Donc nous avions tout intérêt au maintien de cet ordre qui était un ordre multilatéral basé sur le droit. Nous avons beaucoup encouragé, d'ailleurs, les institutions internationales à développer ce type de rapport entre les puissances. Du coup, la puissance elle-même ne se manifestait plus. Il y avait une espèce d'égalité entre les faibles et les forts, parce que le droit était là pour empêcher l'effort d'abuser de leur position. Or, nous voilà avec un Donald Trump qui vient nous dire que les États-Unis estiment ne plus avoir intérêt au maintien d'un système qu'ils ont eux-mêmes beaucoup contribué à mettre en place. Ils ne veulent plus jouer le rôle du shérif reluctant, comme disent les Américains. Ils ne veulent plus être le pivot d'un système international parce qu'ils estiment que la mondialisation, finalement, leur a nui. Ce qui est un paradoxe, puisqu'encore une fois, c'est eux qui l'ont bâti. Donc, nous voilà en face d'un système nouveau dans lequel la puissance militaire en particulier redevient un facteur déterminant et le commerce international, le doux commerce des libéraux, s'efface. C'est donc quelque part peut-être pas la fin, mais en tous les cas l'amenuisement d'un système libéral qui était encore une fois basé sur le droit et le commerce. Pour nous, Européens, c'est une catastrophe encore une fois, parce que nous avons en face de nous et à nos frontières des puissances qui sont, comme on dit, démocratures, qui sont extrêmement menaçantes, qui, elles, jouent le jeu de la puissance à plein sur leur périphérie, qui sont la Russie et la Turquie en particulier.
Je rappelle, la démocrature, c'est une démocratie autoritaire.
Enfin, voilà, c'est un mélange de dictature et de démocratie. C'est une démocratie dans laquelle, en gros, les minorités n'ont pas les droits qu'elles mériteraient dans une démocratie normale, où le pouvoir estime qu'il est propriétaire de l'État.
Sylvain Bourbon.
Oui, je suis un peu gêné par l'équation globale, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait un lien entre radicalisation et mondialisation. Radicalisation, de toute façon, c'est un mot qui pose d'énormes problèmes, surtout en français, puisqu'on a une acception de radical qui n'a rien à voir. Quoi de commun entre parti radical valoisien et Daesh ? Je voudrais qu'on m'explique. Donc, on a un gros.
Je suis allé regarder dans le dictionnaire, parce que c'est vrai, à chaque fois quand on a des termes comme ça, je me dis, ouais, on va regarder ce qu'on dit, par exemple, ou le Robert ou le Larousse, pour essayer d'y voir un peu plus clair. C'est vrai, quand on tape dans Google aujourd'hui radicalisation, ça nous renvoie évidemment à la radicalisation djihadiste. Radicalisation dans le Larousse, ça renvoie à radicaliser. Et radicaliser, ça veut dire rendre l'action plus dure, plus intransigeante.
Oui, mais ça vient de la racine. Donc effectivement, on peut se dire, au fond, quelqu'un qui est radical, c'est quelqu'un qui est, dirait Marcel Détienne, raciné, qui va insister sur ses racines. Alors que ce soit des racines politiques, de philosophie politique, c'était le cas des radicaux, ou des racines identitaire qui renvoie à des nationalismes aujourd'hui. Donc il peut y avoir un lien, on peut le faire, entre nationalisme et une forme de radicalisation. Mais on voit aussi qu'il existe, et le terrorisme international est là pour nous montrer des formes de radicalisation qui n'ont rien à voir avec des nationalismes. Parce qu'on ne peut pas considérer que ce qui relève de l'État islamique, ce soit un nationalisme au sens classique du terme des nationalismes. Donc je trouve que c'est un mot qui pose problème. Alors retenons cette idée d'intransigeance, de dureté dans les relations dont vous parlez, qui me paraît plus maniable en quelque sorte comme terme. Est-ce qu'il y a un lien entre ça et la mondialisation? Je vais être un peu en désaccord avec ce que j'entends. Non pas en désaccord.
Moi, je faisais plutôt le lien avec la démondialisation dont on a parlé, c'est-à-dire la montée du protectionnisme, oui, un protectionnisme économique qui s'accompagnerait d'un protectionnisme politique, en tout cas, de forme de nationalisme.
J'ai bien compris et j'ai entendu la description de ce qui s'est passé dans la période récente autour de cette table. Je pense que tout ce qui a été dit est tout à fait juste, en particulier la phase nouvelle dans laquelle on est entré avec les choix que Barack Obama a opérés et qui ont produit des conséquences importantes sur le système global des relations internationales. Tout ça me paraît juste. D'autres éléments aussi notés du côté de la montée en puissance des démocratures, que ce soit en Turquie, que ce soit en Russie, etc. Tout ça me paraît juste. Mais pour autant, si on prend un peu de recul, est-ce que vraiment les relations internationales aujourd'hui sont plus âpres, sont plus dures qu'elles l'ont été? Est-ce que vraiment, j'entends ce que Brice a dit sur le droit, est-ce que vraiment le droit international a tellement existé qu'il nous a empêchés de voir sous nos yeux le génocide au Rwanda ou les crimes contre l'humanité en ex-Yougoslavie, ou je pourrais multiplier les exemples? Donc au fond, ce modèle-là n'a jamais véritablement triompher. Ça, c'est la première réserve que je ferai. La deuxième réserve que je ferai, c'est qu'au fond, je ne crois pas que la mondialisation, ce soit quelque chose qui se décrète. Je ne crois pas que la mondialisation est d'abord une dimension, une caractéristique politique. Je pense que c'est d'abord un fait, et que c'est d'abord un fait économique et un fait social. Et moi, même s'il y a des replis identitaires, même s'il y a des montées en puissance des nationalismes, même s'il y a du protectionnisme, ce que je vois, c'est que la mondialisation entendue comme telle, comme un fait social et économique, elle ne cesse de progresser et elle continue de progresser. Alors peut-être qu'elle nous concerne, qu'elle n'augmente pas si vite pour nous, les pays d'Europe, qu'elle a pu augmenter au cours des 30 dernières années, mais d'autres pays, des pays africains, la Chine, l'Inde, le Brésil, tous ces pays énormes, extraordinairement importants, eux, continuent à se mondialiser à une vitesse faramineuse. Donc je ne crois pas du tout qu'on soit à la fin de la mondialisation.
Alors je vais vous poser peut-être la question d'une manière un petit peu différente pour poursuivre dans la réflexion. Est-ce que vous considérez, par exemple, que cette montée des replis, ces replis identitaires, cette montée du protectionnisme sur le plan économique, ont un impact sur la nature aujourd'hui des relations internationales, Jean-Christophe Ploquin?
Je pense qu'on est quand même dans un système qui reste avec des modes de régulation importants. Il y a des instruments qui existent toujours. Évidemment, l'ONU est là, avec le réacteur central qu'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, parfois, ce cœur, finalement, dysfonctionne parce que les puissances qui sont à l'intérieur ont des intérêts contradictoires extrêmement forts. Mais assez fréquemment, ce cœur fonctionne et il y a des résolutions qui sont prises et le Conseil de sécurité est en situation d'essayer d'apporter des solutions sur le terrain. Donc il y a cet organe de régulation. L'OMC, par exemple, reste un organe de régulation, non pas pour de grands accords multilatéraux qui associaient tous les pays. Ça, cette période est passée. Je ne sais pas si elle reviendra.
Mais quand même aujourd'hui dans une phase essentiellement d'accords bilatéraux. Exactement. Dans lesquels l'OMC a quand même un rôle très secondaire.
Un rôle secondaire, mais un rôle d'arbitrage. L'OMC est le seul endroit où les États-Unis ont accepté un tribunal non américain pour juger des différends. Donc ça reste une institution importante et c'est pas un hasard effectivement si Donald Trump voulait quitter à un moment l'OMC. Il avait un peu dit ça pendant sa campagne.
Mais c'est plus une institution, disons, qui dit ce qu'est le droit plutôt qu'une institution véritablement politique aujourd'hui qui donnerait des impulsions.
C'est ça.
En termes
elle n'a pas vraiment d'effet de levier, mais elle existe encore. Ensuite, bon, je pense qu'il y a quand même tout un tissu multilatéral qui existe. Les accords commerciaux, même si c'est sur une une base bilatérale, c'est quand même bien de l'engagement réciproque et c'est vraiment une recherche d'accord, de consensus sur un certain nombre d'éléments d'échange. Et puis, effectivement, sans vouloir trop anticiper, l'Union européenne, j'entends tout à fait ce que disait Brice Couturier tout à l'heure, mais est-ce qu'elle n'est pas, depuis la nouvelle donne Macron, la nouvelle donne Merkel, on verra quel gouvernement il y aura bientôt, mais en tout cas, est-ce qu'elle ne va pas essayer à nouveau de pousser son rôle en tant que producteur de normes et élément conduisant à la régulation? Je pense que c'est une vraie question. Et puis pour la France, c'est clair que le multilatéralisme, c'est le socle de son existence dans le monde, hein, puisqu'elle fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est quand même l'une des 5 puissances permanentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis par ailleurs, elle est aussi fondatrice, l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, qui est aussi un accélérateur, je dirais, de régulation.
Donc si je vous suis, Jean-Christophe Ploquin, vous nous dites qu'en gros, les instances du multilatéralisme aujourd'hui, bien que peut-être un peu affaiblies, continuent quand même de jouer un rôle, et un rôle suffisant pour s'opposer, disons, justement, à cette montée des nationalismes. Je vois que vous approuvez, donc je n'ai pas déformé votre,
je pourrais amender votre propos.
Anastasia Colosimo, comment est-ce que vous, vous pensez, comment est-ce que vous répondez aussi à cette question?
Je ne suis pas tout à fait d'accord et je reviens sur ce qui vient d'être dit, mais aussi sur ce qu'a dit Sylvain Bourmeau tout à l'heure, c'est-à-dire je ne pense pas du tout que la perception de la mondialisation aujourd'hui soit qu'elle avance peut-être pas assez vite pour nous, mais que c'est formidable ce qui se passe aujourd'hui en Chine, en Inde, dans d'autres pays. Moi, l'impression que j'ai, c'est que plutôt autour de cette question de la mondialisation, il y a une véritable scission. Déjà, il y a une scission économique qui est extrêmement forte, qui est qu'au sein même des pays européens, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont en dehors de cette mondialisation, qui sont les laissés pour compte de la mondialisation. C'est le cas au niveau donc français, on peut dire, hein. Au niveau européen, il y a des pays qui, comme la Grèce par exemple, considèrent que par rapport à d'autres pays, ils n'ont pas profité de la mondialisation ou en tout cas des échanges et du libéralisme économique, etc. Au niveau mondial, n'en parlons pas, parce que effectivement, on peut dire c'est formidable, la Chine se développe. Mais enfin, il faut savoir ce que c'est de vivre en Chine et aussi ce que le coût humain de cette mondialisation est en fait assez phénoménal. Ça, c'est sur le plan économique et sur le plan politique. C'est un peu la même chose. On a parlé du fait que les États-Unis sont effectivement rentrés dans une phase un peu différente de retrait et qui a commencé d'ailleurs avec Obama et qui aujourd'hui se poursuit en fait avec Trump assez étrangement. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré cela, face à cette idée, donc dans cette idée de mondialisation économique, il y a aussi la mondialisation politique qui est de dire il y a encore cette histoire du camp des gentils et du camp des méchants. Il y a encore cette histoire de scission entre ceux qui veulent continuer à faire comme on a fait et ceux qui veulent être en rupture par rapport à ce qu'on a fait. Et là encore, il y a deux mondes qui ne se retrouvent pas là-dedans, parce que je pense que les deux questions sont extrêmement liées. On voit très bien que les replis identitaires sont exactement là où il y a les laissés pour compte de la mondialisation économique. Et ça, encore une fois, au niveau micro ou macro. Donc, cette tendance-là, c'est elle qui dessine en fait la fracture aussi, pour moi, des radicalités, et c'est là-dessus exactement qu'il faut jouer. Et par ailleurs, cette mondialisation, aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle n'arrive pas à affronter les grands problèmes qu'on a typiquement en Europe, que sont le terrorisme, les migrants, la question environnementale, etc. Donc, je ne serais pas aussi optimiste.
Brice Couturier ?
Oui, Anastasia Colosimo a raison de ne pas être optimiste. J'ai sous les yeux un papier publié dans Project Syndicate ces jours-ci par Harold James, qui montre que sur le plan historique, chaque grand krach financier a été suivi d'une guerre épouvantable. Le krach de 1907 a été suivi de la guerre de 1914. Entre les deux, vous avez une période où la mondialisation, ce qu'on appelle la première mondialisation, s'arrête et s'essouffle, et où commencent les guerres commerciales entre les États européens. Chacun sait ce qui s'est passé en 1930-31. Et la guerre commerciale qui s'en est suivie, le protectionnisme érigé par l'Allemagne nazie, en particulier à ses frontières. Et après, évidemment, la guerre commerciale, enfin, évidemment, c'est pas aussi automatique que ça, mais c'est vrai que souvent, les guerres sont précédées par des guerres commerciales. Et La grande inquiétude de beaucoup d'observateurs aujourd'hui, c'est de se demander si nous ne sommes pas précisément entrés dans une telle phase où un essoufflement de la mondialisation, un arrêt partiel des échanges, un ralentissement en tous les cas de ces échanges commerciaux à travers le monde, coïncide avec une fermeture, parce qu'effectivement les laissés-pour-compte dont parlait Anastasia Colosimo, eux poussent évidemment à la fermeture des frontières, à la fermeture sur le plan de l'immigration, sur la circulation libre des personnes, mais aussi évidemment des capitaux et des marchandises pour protéger les industries locales et le commerce local.
Quand vous dites, Brice Couturier, que ça coïncide, est-ce que vous voyez, disons, ce protectionnisme économique comme la cause justement de repli identitaire, d'une montée du nationalisme, ou bien c'est juste
le contraire?
C'est le contraire.
Le contraire, c'est quand vous avez une partie trop importante de la population qui estime que la libéralisation des échanges lui nuit personnellement, comme c'est le cas des petits blancs américains qui aujourd'hui sont absolument révoltés par la mondialisation et qui ont fait le succès de Trump. Quand ces gens deviennent trop nombreux, quand les victimes, si vous voulez, de l'ouverture des échanges deviennent trop nombreux, ils cherchent des boucs émissaires à leur misère. Ils les trouvent évidemment chez les étrangers, sur place et ailleurs. Ils le trouvent chez les voisins et ils le trouvent chez les voisins de leur pays et chez leurs propres voisins. Et ça crée évidemment une angoisse, une inquiétude et une colère, et cette inquiétude et cette colère peuvent se traduire évidemment par des régimes autoritaires. Je ne dis pas que Donald Trump est sur la voie de la démocrature, mais enfin on observe bien ce raidissement déjà aux États-Unis, et n'oublions pas que généralement ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions, anticipe ce qui se passe souvent en Europe. Et en Europe, ça se passe. Les régimes aujourd'hui de Hongrie et de Pologne sont des régimes qui sont des régimes autoritaires, nationalistes et xénophobes.
Qui sont antérieurs à celui de Donald Trump, par ailleurs.
Certes, mais ils suivent la même pente. Par bonheur, nous avons eu des élections aux Pays-Bas et en France qui ont semblé marquer un coup d'arrêt à la montée des populismes xénophobes, mais nous ne savons pas si c'est une fermeture provisoire d'une parenthèse ou si c'est un répit qui nous est donné.
Sylvain Bourmeau.
Oui, je voudrais juste dire une chose, parce que je pense avoir été mal compris tout à l'heure. Pour moi, ce que j'ai décrit n'était pas un jugement normatif. J'ai pas dit que la mondialisation c'était bien et que la démondialisation c'était pas bien. J'ai dit que c'était un fait économique et un fait social. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas confondre deux choses. D'un côté, ce fait, la mondialisation, et de l'autre, la conscience de ce fait, et surtout la conscience des effets de ce fait sur certaines catégories de population. C'est pas parce que dans un certain nombre de pays, un certain nombre de gens ont compris au bout de X années qu'ils ne profitaient pas de la mondialisation, qu'ils en étaient les laissés pour compte, que ce phénomène s'arrête. C'est pas parce que ces peuples portent au pouvoir éventuellement des leaders qui tiennent des propos populistes que néanmoins ces leaders mettent en œuvre des politiques véritablement de repli, de fermeture des frontières. Moi, j'aimerais bien, on pourrait prendre tous les indicateurs, je suis pas sûr qu'on puisse dire aujourd'hui que la mondialisation connaît un coup d'arrêt, que le commerce international s'effondre, qu'il n'y a plus d'échanges, qu'on est entré dans une nouvelle période. Mais ça n'est pas vrai.
Il y a un an, Sylvain Bourmeau, moi je me souviens quand même ce terme qui revenait quand même beaucoup dans les analyses, qui était pas celui du coup d'arrêt à la mondialisation, mais de la démondialisation. C'est-à-dire que là, on était vraiment dans un concept qui était totalement, un peu loufoque.
Mais ça a été à un moment proposé de façon, je trouve, je lui avais dit, maladroite par Arnaud Montebourg, je lui avais dit, mais réclamer la démondialisation, c'est comme vouloir faire en sorte que la Terre redevienne plate. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Aucune espèce d'action politique peut produire la démondialisation. La mondialisation, elle a commencé, on dit première mondialisation, Brice Couturier en parlait tout à l'heure, pour le 19e siècle. Mais en fait, la mondialisation, on sait bien qu'elle est partie prenante avec l'histoire de l'humanité et qu'elle n'a fait que s'intensifier à mesure que les moyens de transport, d'échange, de techniques de finances économiques ont progressé. Et l'histoire de la planète entière est l'histoire d'une progression de la mondialisation. Donc, qu'on revienne là-dessus me semble... Alors, en revanche, ce qui est nouveau, c'est, je le disais, la prise en considération par un certain nombre de gens que ce phénomène qu'on appelle mondialisation, eh bien, les pénalise d'une manière ou d'une autre. Et ça produit des effets politiques dans les pays. Mais j'ai pas encore vu que ces effets politiques, à leur tour, produisent des effets qui viendraient enrayer la mondialisation. Je pense pas que nous en soyons là.
En tout cas, il y a quand même un problème. Si on se met d'accord sur ce sur ce constat que la mondialisation n'est pas enrayée et que c'est quelque chose qui est bien là, c'est que ça semble quand même s'accompagner, ou en tout cas être concomitant, avec une crise assez importante du multilatéralisme. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait justement pour réguler, malgré tout, parce qu'il faut nécessairement réguler la mondialisation, quand on est dans une crise du multilatéralisme, et qui est en mesure aujourd'hui de porter cette idée du multilatéralisme si les États-Unis refusent désormais de le faire, ou en tout cas le font beaucoup moins, Anastasia Colosimo.
Normalement, enfin, justement, l'idée d'un vrai multilatéralisme serait en réalité un multilatéralisme qui n'est pas porté par un pays. Ça serait quand même...
Alors vous supprimez par exemple le Conseil de sécurité de l'ONU avec ses membres permanents.
Non, pas du tout, pas du tout.
C'est pas un pays, c'est cinq pays, mais enfin bon, en tout cas, voilà.
On parlait des États-Unis, donc oui. L'idée c'est que en réalité, si on voulait espérer un véritable multilatéralisme, on pourrait aussi espérer une politique qui n'est pas décidée par un pays pour, par exemple, l'Europe. Et là, je parle de la manière dont l'Europe s'est quand même alignée pendant très très longtemps sur les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que aujourd'hui, c'est quand même un des gros sujets. C'est un grand sujet d'Emmanuel Macron aujourd'hui, de dire on va avoir notre propre diplomatie, on va avoir notre propre politique. Et en fait, pour qu'il y ait du vrai multilatéralisme, il faut aussi qu'il y ait un vrai dialogue véritable entre les pays. Sauf que la réalité aujourd'hui aussi, c'est que le dialogue est rompu entre beaucoup de pays. Donc ça, je pense que c'est... un premier problème.
Mais on voit bien qu'il y a la nécessité aussi qu'il y ait une volonté politique. Alors peut-être quelques initiatives. Jean-Christophe Ploquin, est-ce que ces initiatives d'une relance du multilatéralisme, c'est du côté de l'Europe qu'il faut aller les chercher aujourd'hui ?
Je pense que l'Europe est la seule entité, on ne va pas parler de puissance en termes politiques, mais est la seule entité susceptible de pousser effectivement à nouveau cette idée, en sachant que la Chine, par exemple, reste très engagée dans le multilatéralisme. Évidemment, on voit la Chine avoir des actions unilatérales en bétonnant quelques îlots en mer de Chine, etc. Mais sinon, elle est encore dans une phase de développement de sa puissance où elle a besoin finalement de jouer le jeu le jeu de cartes mondiales en quelque sorte, pour pouvoir faire du commerce tranquillement en Afrique, pour pouvoir nouer des relations en Amérique latine très étroites. Le calme du multilatéralisme, le cadre et le calme du multilatéralisme est quand même très, très intéressant pour la Chine aujourd'hui.
Sauf qu'il n'est pas dit que la Chine, en tout cas que les dirigeants chinois aient envie d'endosser ce rôle-là, cette responsabilité-là. C'est-à-dire qu'ils ont besoin du multilatéralisme, mais est-ce qu'ils veulent vraiment assumer la charge ?
Regardez par exemple le point assez symbolique mais qui est en même temps important, les casques bleus. Les Chinois fournissent de plus en plus de troupes pour les casques bleus, pour des opérations qui vont se dérouler parfois à des milliers de kilomètres de leur base. Donc la Chine reste un acteur engagé, même si on peut s'interroger sur sa vision longue en quelque sorte, et l'Union européenne, ou en tout cas les Européens dans une logique un peu coalisée, sont les plus à même effectivement de continuer à porter cette ambition qui ne sera peut-être jamais réalisé, mais en tout cas, ce projet, effectivement, d'un monde, d'une régulation de la mondialisation et d'un monde qui soit bâti, comme disait Brice Couturier tout à l'heure, davantage sur des normes que sur le rapport de force militaire.
L'avenir du multilatéralisme, Brice Couturier, passe par Bruxelles et par Pékin.
Je vais m'opposer aux deux interventions qui viennent d'avoir eu lieu. Anastasia, pour qu'il y ait régulation, il faut qu'il y ait un pivot. Pour qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait un shérif et pas seulement un tribunal. Parce que le tribunal lui-même ne peut pas faire exécuter ses ordres. Jusqu'à présent, il y a eu une puissance qui était la puissance pivot centrale de la mondialisation, c'était les États-Unis tout simplement. Parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse respecter ne serait-ce que la libre circulation des mers. Or, la marine américaine et le militaire est la plus puissante du monde jusqu'à présent. Les Chinois construisent justement beaucoup de porte-avions et c'est très inquiétant. L'abstention ou le retrait des Américains, d'abord avec Obama, vous avez raison, et surtout avec Donald Trump, fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus ce pivot de la mondialisation, cet acteur principal qui est capable de punir les États voyous, tout simplement ceux qui ne veulent pas respecter les règles.
C'est aussi parce que les États-Unis ont montré que les États-Unis aussi pouvaient être un État voyou. C'est-à-dire que le problème, on a eu quand même la guerre en Irak, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites au nom exactement du fait que les États-Unis étaient le shérif, et l'Europe d'ailleurs a réagi de manière parfois très différente, et il y a quand même une vraie discussion aujourd'hui aussi, et c'était aussi ça l'idée de Barack Obama. climat. C'était aussi de dire, mais en fait, on ne peut pas non plus de manière permanente considérer que les décisions que l'on prenons sont des décisions bonnes pour le monde entier. Et donc, enfin, il y a quand même cette idée-là. Donc,
l'État voyou, à mon avis, c'était plutôt l'Irak. Et aujourd'hui, la Corée du Nord, est-ce que c'est Trump l'État voyou ou est-ce que c'est pas plutôt la Corée du Nord? Et qu'est-ce qui va aujourd'hui nous débarrasser de cette espèce de despote héréditaire communiste de Corée du Nord, sinon les Américains? Et s'ils ne veulent pas le faire, qui vont le faire? Mais je voulais répondre aussi à la deuxième intervention, parce qu'il y a une tentation aujourd'hui de dire que les Européens pourraient remplacer les Américains dans le rôle du pivot de la mondialisation. Ana Palacio, l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères, a publié il y a quelques jours un article très intéressant où elle met en garde les Européens contre cette tentation. Pourquoi? Parce que nous n'en avons tout simplement pas les moyens. Nous sommes divisés sur le plan politique, donc nous n'avons pas de politique étrangère commune de l'Union Européenne. Nous ne sommes pas une puissance, contrairement à ce que rêve Macron. Et deuxièmement, nous n'avons pas la puissance militaire. Et là, il faut faire preuve quand même d'un peu de réalisme. Sur le plan militaire, nous sommes un nain. Nous sommes une série de nains.
Et la Chine?
Quant à la Chine, oui, exactement, ça aussi c'est très important. Ana Palacio signale deux, trois choses qui sont passées de manière assez inaperçue. Tout récemment, une compagnie espagnole s'est mise d'accord avec un consortium vietnamien pour aller prospecter des nappes de pétrole très importantes qui se trouvent dans les mers vietnamiennes, sous le contrôle du Vietnam. La Chine s'y est opposée sous menace militaire. Donc on voit bien que la Chine ne joue pas selon les règles de la régulation, selon des normes du droit international. La Chine joue d'après, est une puissance et joue le jeu de la puissance exactement comme les Américains avec Donald Trump ou la Russie de Poutine. Ce sont des gens qui ne jouent pas d'après les règles, ils jouent d'après le rapport de force.
Mais
leur force
est
très grande.
Mais parce qu'il n'y a pas de règles dans les
relations internationales. Mais il y en avait avant.
Quand est-ce qu'il y a eu des règles les relations internationales, dans l'histoire du monde?
Jean-Christophe Ploquin et Cécile Bourbeau.
Il y a quand même des règles, mais effectivement, enfin, il y a une charte, il y a des principes. Et effectivement, il y a eu longtemps un shérif qui était là pour la faire respecter, mais effectivement, le shérif a enfreint ses propres règles, en quelque sorte. Et ça, c'est très mauvais pour le multilatéralisme. Quand les puissances, mais c'est vrai aussi pour des puissances moyennes comme la France ou la Grande-Bretagne, confèrent la Libye, quand elles se mettent à côté des règles, évidemment, c'est très mauvais pour le multilatéralisme, les autres pays ne n'adhèrent plus finalement à ce système. Je voulais juste revenir sur ce que disait Brice Couturier. Bien sûr que l'Union européenne n'est pas une puissance militaire, n'est pas une puissance politique. Ce que je voulais dire, c'était simplement qu'elle peut porter ce projet. Elle a quand même, il y a deux puissances européennes au Conseil de sécurité de l'ONU. L'une va bientôt quitter l'Union européenne, mais elle est quand même en partage de valeurs sur cette question-là du multilatéralisme, la Grande-Bretagne. Et donc, je pense que l'Union européenne, parce que c'est son propre ADN et parce qu'elle ne peut exister finalement en tant que grande puissance, ou en tout cas que grande région du monde avec sa cohérence, son dynamisme, sa vitalité, elle ne peut exister effectivement que dans un monde de régulation. Et c'est à la fois sa faiblesse, c'est-à-dire elle ne peut pas peser militairement, mais en même temps, ça peut être son objectif de réaliser finalement un ordre à partir de ses principes.
Je pense qu'on n'est pas nécessairement obligé de tenter de séparer le rapport de force de la régulation. Je pense que l'embryon de régulation qui a vu le jour après Yalta, il s'est adossé à un rapport de force. Et ce qui a structuré les relations internationales de l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est évidemment ce monde bipolaire entre les États-Unis et l'URSS. Et au fond, depuis la chute du mur, depuis qu'on n'est plus de la même façon dans ce rapport de force aussi structurant, mais qui demeure malgré tout, on n'a pas retrouvé une forme d'équilibre multilatéral. Et ce qui a remplacé un rapport de force principal, c'est une série de rapports de force fluctuants. Et ce qu'on voit arriver aujourd'hui avec des postures de certains leaders, on parlait d'Erdogan tout à l'heure, etc., qui viennent changer la donne de ce point de vue-là. Et dans ce paysage-là, moi, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit par M. Ploquin. Je pense que l'Europe a plus que jamais une carte à jouer, pour peu qu'elle parvienne à parler d'une même voix sur les questions internationales, sur les questions de défense. Et je dirais que la France a, de ce point de vue, une responsabilité particulière. Cela voudrait dire que la France accepte de perdre son rôle particulier, de se fondre dans un ensemble plus vaste. Or, je pense qu'il y a encore des fiertés nationales françaises qui font obstacle, qui font barrage à un discours qui permettrait, je crois, à l'échelle européenne de peser de façon plus efficace. Un certain nombre de dirigeants...
Emmanuel Macron était en Grèce la semaine dernière pour un grand discours justement sur l'Europe. Est-ce que vous avez entendu dans son discours, Sylvain Bourmeau, justement peut-être cette idée d'être une France un peu plus modeste, disons, un peu plus partageuse au sein de l'Union européenne, ou au contraire toujours cette France très fière et très...
Pas du tout, c'est-à-dire que on entend toujours le même discours sur l'Europe, c'est-à-dire on veut construire une Europe économique, comme puissance économique forte, éventuellement sociale, etc. Mais on n'entend pas de la part de responsables politiques français, et en particulier de premier plan, l'idée que faudrait arrêter de se raconter des histoires sur la puissance ou le rang de la France dans le monde. Je pense que cette puissance et ce rang n'ont de sens aujourd'hui qu'à travers le cadre de l'Union européenne. Il faudrait être capable de le reconnaître et de l'avouer aux citoyens français.
Alors, moi, je ne peux pas tout à fait abonder dans votre sens, parce que je dirais que pour que l'Union européenne ait une diplomatie commune, il faudrait qu'elle ait un véritable projet politique commun, et il faudrait qu'il y ait quand même, voyez, un vrai projet à l'extérieur commun. Je pense que celui-là n'existe pas. Il n'existe pas aussi parce qu'il y a effectivement, et c'est une réalité, des projets et des conceptions très nationales sur la diplomatie. Et que la diplomatie, c'est une affaire nationale. La diplomatie naît là où il y a quand même des États-nations.
Et la défense aussi d'ailleurs, hein, même s'il y a toujours ces projets d'Europe de la défense. Non, je dis la défense aussi.
Et la défense aussi, hein, évidemment. Il faut avoir quand même un projet politique commun.
Des éléments de souveraineté nationale très importants.
Et donc du coup, je pense qu'au contraire, c'est-à-dire c'est plutôt intéressant de se dire, mais la France, elle peut avoir un rang assez important dans la diplomatie et dans les relations internationales. Pourquoi ? Quand on pense à la Russie, pourquoi est-ce que Poutine est adoré par les Russes ? Parce que la Russie est un pays dont le PIB est celui de l'Espagne, et en même temps, Poutine est décisif sur le dossier syrien. C'est-à-dire que les relations internationales, c'est exactement l'endroit où la démonstration de force, où la symbolique, où la stratégie strictement politique joue un rôle immense. Le fait d'être à la table des négociations, le fait de se rendre indispensable sur un certain nombre de dossiers, et la France n'a pas eu une politique extérieure qui a été cohérente depuis des années, donc elle n'a pas réussi à construire, reconstruire une véritable cohérence, une véritable puissance à l'extérieur. Et si c'est possible, c'est souhaitable, parce que c'est par là aussi que repasse, à mon avis, au niveau national, un certain sentiment d'appartenance à une histoire plus grande.
Jean-Christophe Ploquin, et ce sera sans doute la conclusion.
Moi, j'ai le sentiment, quand j'entends Emmanuel Macron, mais depuis 18 mois, et en lisant un peu ce qu'il a écrit, qu'il le voit, il se dit « la France ne sera grande que si l'Europe est grande ». Et en quelque sorte, oui, la France a un rang à tenir, mais la bonne échelle pour exister à l'échelle du monde, c'est la grande région Europe, en quelque sorte. Et donc, on voit un souci d'imbriquer, en quelque sorte, la puissance de la France avec la grandeur de l'Europe, en quelque sorte.
À quel niveau vous mettez la France, vous, Brice Couturier, dans
cette répartition des rôles ? Je suis Macron, et il parle de souveraineté européenne. Il pense qu'il y a un certain nombre de compétences qui doivent être absolument transférées à l'échelon européen, parce qu'elles n'ont plus de sens à l'échelon purement national. Il y en a un certain nombre, il y en a même beaucoup dans son cas. Donc effectivement, mais c'est bien gentil de vouloir une souveraineté européenne. Encore faut-il que nos partenaires soient d'accord pour l'Europe puissance. Or, nous sommes à peu près seuls en Europe à vouloir l'Europe puissance. Les autres n'ont aucune envie de la puissance.
La conclusion, ce sera à vous, Sylvain Bourmeau, finalement, parce que vous êtes très court, finalement, ce soir, dans vos conclusions respectives, Sylvain.
On va voir, mais c'est vrai que beaucoup de ce qui se joue sur la question qui nous occupait ce soir se joue à l'intérieur de ce cadre européen, je pense, dans les années qui viennent. Je ne suis pas aussi pessimiste que Brice sur l'absence de volonté des partenaires européens. Je pense que le fait que la Grande-Bretagne, paradoxalement, sorte de l'Europe, cette puissance qui est aussi permanente au Conseil de sécurité de l'ONU, va débloquer peut-être un certain nombre de choses du point de vue des relations internationales européennes.
Bien, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce numéro du Club des idées du grain. Anastasia Colosimo, Jean-Christophe Ploquin, Sylvain Bourmeau et Brice Couturier. Sylvain et Brice, qu'on retrouve s'agissant de Sylvain Bourmeau le samedi à 12h45, Brice Couturier à 11h50 environ du lundi au vendredi. 11h53.